franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, dans quelles conditions perdons-nous les nouveaux neurones de notre cerveau ? Avec Pierre-Marie Liédot.
Bon, je reviens maintenant sur l'idée que on s'aperçoit qu'un des freins les plus puissants qui viendra bloquer cette fontaine de jouvence, eh bien, ce sont l'alchimie qui accompagne le cerveau stressé. C'est-à-dire que.
Une oxydation,
par exemple. En cas, je pensais plus exactement aux hormones du stress chronique, notamment le cortisol. Eh bien, là, dans des boîtes de plastique, quand on suit nos nouveaux neurones dans un milieu qu'on contrôle bien, on peut effectivement s'apercevoir qu'avec des taux de cortisol guère plus élevé que celui d'un sujet qui vit un stress durant 2-3 semaines, eh bien, ces nouveaux neurones perdent toute capacité à se mouvoir. Alors, la prolifération est une fonction, je dirais presque par défaut, autonome dans notre cerveau, mais là où tous les sujets sont uniques et peu identiques les uns aux autres, c'est leur sensibilité à ce stress-là, puisque vous allez avoir donc cet effet des hormones qui viendront figer les nouveaux neurones qui sont censés migrer, puisque ces nouveaux neurones naissent dans un lieu où ils n'ont pas lieu d'être, de travailler. Il leur faudra donc migrer. Et durant cette migration-là, eh bien, on voit ces neurones être plus ou moins enclins à voyager, selon que vous puissiez trouver l'alchimie du bien-être, notamment la dopamine ou la sérotonine, qui vont faciliter ces mouvements de migration. Et en revanche, le cortisol va geler ces neurones. Et qui vont ensuite disparaître.
Alors c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on peut à la fois régénérer nos neurones parce qu'on est dans de bonnes conditions et dans un bien-être qu'on peut vérifier. Mais à l'inverse, justement, on peut détruire ces neurones.
Oui, ces neurones se détruisent. En fait, on ne va pouvoir rien faire, c'est eux-mêmes. Il y a des fameux programmes de suicide cellulaire, qu'on pourrait qualifier de suicide cellulaire, de mort programmée, si vous voulez, qui font que le nouveau neurone, lorsqu'il a voyagé, après un certain nombre de jours, doit trouver un partenaire. S'il n'a pas trouvé de partenaire, il s'auto-détruit.
Mardi, la découverte des microbes au 19e siècle avec Dominique Pestre et Kapil Raj.
Le point sur lequel nous avons voulu insister, c'est que le 19e siècle est bien, dans le second 19e siècle, est bien le siècle des microbes. C'est-à-dire le microbe est partout. C'est-à-dire dans l'espace public, le microbe est partout. Et ça a énormément...
Ça change complètement les comportements.
Voilà, hein. Ça change les comportements ordinaires. Le principal effet de la microbiologie du 19e siècle, c'est qu'elle change les rapports ordinaires. Vous vous lavez les mains, la femme bourgeoise apprend à se laver les mains, il y a l'eau courante, dans les WC, vous avez ces WC que nous avons toujours maintenant, porcelaine blanche. Ouais. Ils sont inventés à ce moment-là. Donc les effets dans l'ordre, je dirais, de la vie privée, de la vie publique, des comportements, est considérable. Par contre, on raconte toujours l'histoire comme si cette microbiologie était une histoire d'une grande victoire de la science sur les vaccinations, sur les sérums, sur la... Voilà. En fait, ça, au 19e siècle, c'est beaucoup moins vrai. La plupart des vaccins ne marchent pas, la plupart de sérums ne sont pas très efficaces.
Oui, il y a quelques victimes au passage.
Et de toute façon, le taux de victimes est tel que c'est problématique. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, oui, le microbe est partout, il est surtout dans l'espace public, il est dans la vie quotidienne, et ça change avec la période antérieure. Par contre, sur les pratiques réelles, techniques, il va falloir encore attendre un certain temps pour qu'on passe à une étape supérieure. Donc, c'est un petit peu la petite reconfiguration que nous donnons à
l'éclairage.
Il y a l'effet d'annonce
sur la réalité.
Hein, c'est un effet d'annonce. Exactement.
Ce phénomène d'hygiénisme, au fond, il concerne aussi la planète entière, Kapil Raj, où là aussi, il faut apporter quand même quelques nuances selon les cultures.
Bien sûr. Et alors, il y a des nuances à apporter selon les cultures, même à l'intérieur de l'Europe. Par exemple, les fenêtres en Angleterre qui glissent en haut et en bas pour créer des courants d'air sont inadmissibles en France. Le courant d'air tue les Français. Oh, quand ce n'est pas les crises de foie. Donc, c'est-à-dire que ce sont des valeurs culturelles qui sont à l'œuvre ici, mais bien sûr, c'est-à-dire que l'architecture est très très fortement touchée par cet hygiénisme et par cette idée des microbes.
Mercredi, le syndrome de l'imposteur avec Kevin Chassangre et Stacy Callahan.
Tout a commencé à ma quatrième année d'études où justement à cette année-là on est censé trouver un thème de recherche pour son mémoire de recherche et donc on est censé justement aller voir les enseignants-chercheurs et leur proposer de bien vouloir travailler avec nous.
Ouais.
Et dans cette longue recherche, je suis tombé par hasard, vraiment par hasard, du coup le hasard fait bien les choses, sur un article qui parlait du syndrome de l'imposteur et... Le choc, je me suis dit waouh, je suis complètement concerné. Et du coup, j'ai voulu proposer à Stacy de travailler dessus et Et depuis, ça fonctionne.
Alors, Stacy Callahan, on va l'entendre un petit peu à votre accent. Hein.
Oui.
Vous êtes américaine d'origine.
Oui, c'est ça.
Vous aviez déjà entendu parler, donc, là-bas, aux États-Unis, de ce syndrome ?
Effectivement, c'était très à l'actualité quand j'étais étudiante aux États-Unis.
C'est vrai ?
Donc, on en avait parlé, ouais. Et puis, tout le monde connaissait un petit peu. C'est pas forcément ce qu'on va classifier comme une psychopathologie, parce que c'est un syndrome, c'est pas quelque chose qui va interrompre de manière massive la vie de quelqu'un. Mais pour revenir sur ce qu'il a dit, Kevin, quand il m'a proposé ce projet, ce n'était pas dans mes thèmes de recherche, mais ce qu'il a ajouté, c'était très intéressant, c'était de l'étudier avec une notion qui s'appelle l'affirmation de soi, la capacité de s'affirmer et communiquer avec non-violence, et voir si ce serait peut-être un moyen de traitement. Et c'est là où il m'a capté vraiment avec ce projet.
Est-ce que vous vous sentez légitime dans l'écriture de ce livre ? Est-ce que ça vous a posé problème ou pas de publier cet ouvrage ? Est-ce que vous êtes beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que nous, on pourrait le faire ? Vous vous rendez compte, écrire un livre quand même, aller à la radio pour en parler ?
Oui, aussi.
Est-ce que vous vous sentez légitime autour de ce micro ou pas ?
Moi, personnellement...
Alors, vous l'êtes totalement, évidemment.
Ah bah écoutez, merci, mais personnellement, absolument pas. Quand on m'a proposé d'écrire ce livre, c'était justement suite à une intervention au congrès de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Mmh. Et j'ai dû relire le mail au moins 10 fois pour être sûr de bien comprendre. Tiens, là, on est en train de me proposer d'écrire un livre. Et l'autre jour, c'était, tiens, on me propose de passer à la radio. Mais en même temps, qui suis-je pour parler du syndrome de l'imposteur? Puisque l'ironie du sort, c'est que je me considère être un imposteur, donc parler de ça et proposer justement de surmonter ça, c'est quand même assez drôle.
Stacy Callahan, de votre côté ?
J'utilise plutôt un raisonnement circulaire. Si je suis là, c'est parce que quelqu'un m'a demandé d'être là, donc forcément j'ai droit d'être là.
Mais il y a des moments... Vous avez fait des efforts déjà, hein. Vous avez avancé.
Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis là ?
C'est
pas possible.
Quand même. Ouais.
Oui, il y a toujours des moments comme ça dans la vie, c'est clair.
Jeudi, l'orgasme féminin à deux ou en solo, avec Elisa Brune et Odile Buisson.
Très génitalement parlant, il ne faut pas non plus miser tout sur l'orgasme. Dans tous ces témoignages que j'ai recueillis, la notion de plaisir est très, très puissante et très intense, y compris pendant la pénétration, sans que ce soit nécessairement un orgasme. Et donc, parfois, la volonté ou l'essai de finaliser vers l'orgasme peut empêcher de bien profiter des sensations qui sont là et qui sont un véritable plaisir.
Est-ce que c'est bon pour la santé, un orgasme ? On a de la documentation là-dessus, un petit peu ?
Oui, il y a Stuart Brody, qui est un professeur de écossais, qui a beaucoup publié là-dessus. Mm-hmm. Et on sait que l'orgasme, c'est une source de bonne santé physique et psychique. Le tonus cardiovasculaire est meilleur, il y a une musculation qui se fait. On a décrit aussi des tailles plus fines chez les femmes qui ont des capacités orgasmiques d'orgasme vaginal.
Pour perdre du poids, c'est bien. Ça va être le nouvel argument de choc.
Oui, ça consomme
beaucoup d'énergie. Et surtout, ça crée une détente et un anti-stress de première qualité. Et puis en plus, ça augmente l'amour, le sentiment amoureux. Mmh. Et l'amour, c'est bien parce qu'en fait, ça nous permet d'être à deux pour faire face aux adversités de la vie.
Mmh. Elisa Brune, être à deux, c'est bien, mais apparemment, les femmes sont très heureuses lorsqu'elles sont toutes seules aussi. En tout cas, elles manifestent plus de plaisir. C'est effrayant, les chiffres. Hein. C'est pratiquement du simple double. On en prend un coup sur la cafetière quand même, non ?
C'est-à-dire que la performance orgasmique est bien meilleure en solo qu'à deux. Alors, ça prouve pas que c'est meilleur tout seul. Ça prouve que on a une connaissance de soi qu'il est difficile de transmettre à l'autre. Mmh. Raison pour laquelle ça se dégrade quelque part. Mais d'où l'idée qu'il y a du travail à faire là-dessus, c'est-à-dire à rendre les partenaires aussi, eux, bien conscients de comment ça fonctionne, en diffusant de l'information, comme j'essaye de le faire depuis quelques années, et aussi, bien sûr, en communiquant plus facilement sur son désir et sur son plaisir. Et c'est là que les femmes ont peut-être encore beaucoup de réticences par rapport à savoir exprimer ce qui leur fait du bien, ce qu'elles souhaitent. C'est très important.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.